Bon, ben écoutez, je vous... Oui, mais je crois qu'il fallait qu'on s'en voilà, entrez. Bonjour. Salut. Bon. Je vous propose de commencer maintenant. Je vais resituer. Je crois que bon, bah, aujourd'hui on n'est pas très nombreux, et donc ce que je vous propose d'une certaine manière, c'est d'en profiter. Donc n'hésitez pas à c'est quoi que ce soit qui n'est pas clair ou qui nécessite hein, des informations complémentaires ou des observations de votre part ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'interrompre quand vous voulez. Hein, c'est pas un problème parce qu'on va survoler quand même pas mal de choses. Parfois en allant peut-être un peu vite, et donc si ça arrive que je ne sois pas compréhensible, il ne faut pas hésiter à m'interrompre. Hein. Donc profitons qu'on ne soit pas nombreux, et puis je dirais que ce n'est pas un cours magistral loin de là, même si on va traiter de sujets qui, eux, le sont, magistraux. On va parler donc aujourd'hui, c'est la deuxième session que nous faisons qui est consacrée au bouddhisme en Chine. Et cela est vu au travers de l'ensemble des conférences que j'ai données ici durant le premier semestre de cette année et qui étaient consacrées aux grandes spiritualités de la Chine. Et donc nous avons vu à la fois dans un premier temps Confucius, qui est peut-être le penseur principal de la Chine. Ensuite de quoi nous avons vu les maîtres du Tao, surtout Lao Tzu et Chuang Tzu. Et ensuite de quoi, la fois dernière, donc, nous avons vu le bouddhisme. Donc toutes les choses qui seront vues aujourd'hui seront vues effectivement du point de vue de la Chine, de la culture chinoise. Et donc ces penseurs seront mis en relation d'une certaine manière, quel était l'apport du bouddhisme dans la Chine, les différences, tout ça sera mis en lumière vis-à-vis des choses qui existaient déjà en Chine préalablement au bouddhisme. Il faut bien, je vais revoir un petit peu quelques-unes des choses qui ont été vues la fois dernière. Donc il faut bien voir que le bouddhisme est une religion qui est non chinoise, qui est indienne à l'origine, et donc qui a été sans doute la principale pensée, doctrine étrangère à se répandre en Chine. Du moins dans les temps anciens. Il y a une autre doctrine, comme je vous l'ai dit la fois dernière, qui s'est répandue au XXe siècle, qui est le marxisme. Mais donc, ça fait une époque déjà beaucoup plus moderne. Ce qu'il faut bien voir aussi, et qui est important, c'est qu'il y a eu deux pénétrations en Chine, qui ont été des routes d'apprentissage du bouddhisme. Il y a l'une d'entre elles, la dernière fois j'avais amené des cartes, malheureusement cette fois-ci j'ai pas les images, mais donc il y a l'une d'entre elles qui est une route terrestre, qui est communément appelée la route de la soie, et donc qui fait un détour énorme quand on regarde une carte, la dernière fois on l'a vu, c'est-à-dire qu'elle part, du moins cette partie de la route de la soie part du nord de l'Inde, et à partir de là, elle fait tout un détour qui va la mener, je parle en pays moderne, hein, c'est, parce qu'à l'époque c'était d'autres pays qu'il y avait, vers le Pakistan, l'Afghanistan, l'Iran. Elle va remonter ensuite pour reprendre toute la route des déserts, donc avec le désert de Gobi, le Taklamakan, et au bout du compte, elle va terminer dans le nord de la Chine. C'est l'une des branches de la route de la soie. Il y a l'autre branche qui allait jusqu'à Rome de l'autre côté et même un petit peu plus loin en Europe. Et une autre branche qui allait sur l'Afrique du Nord. Donc cette route était appelée la route de la soie parce que effectivement, c'est à partir de là que que la soie dont les Chinois avaient la maîtrise au niveau de sa confection était amenée en Occident. Donc c'est nous qui l'avons appelée la route de la soie. Les marchandises qui voyageaient sur ce genre de route ne pouvaient être que des marchandises chères, rares et non produites localement. Enfin, non produites localement là où elles arrivaient. Parce qu'effectivement, c'était une route qui était très longue. C'était également pas des denrées périssables. parce que ça mettait, je pense que ça mettait parfois plusieurs mois, voire dans certains cas plus d'une année, pour aller d'un point à un autre. On allait à pas d'homme ou à pas d'animal.
Tout naturellement, il y a eu un certain nombre de marchands indiens qui ont été des personnes qui s'étaient converties au bouddhisme. Et par un phénomène que j'avais expliqué la fois dernière, mais qui est très important et sur lequel je voudrais revenir, il y a eu également ce qu'on appelait des moines mendiants qui ont suivi ces marchands et qui ont été le principal facteur de propagation du bouddhisme. L'autre route qui existe est la route maritime, qui, elle, donc part des grands ports de l'est de l'Inde, contourne, fait en fait à l'époque, c'était plus ou moins quand même du cabotage. Hein. Donc on allait en suivant la côte, on passait en Indonésie, on contournait tout le Vietnam, Laos, Cambodge, et on remontait vers le sud de la Chine. Et on arrivait dans les grands ports, pour parler actuellement, c'est des ports comme Canton, par exemple, qui était le principal port marchand, commerçant, etc., avec une très très grande activité à cette époque. Ça l'est toujours, hein, Canton est une ville qui est plus grande que Paris aujourd'hui. Hein. Je parlais tout à l'heure de ces moines mendiants. Je pense qu'il faut en dire quand même un mot, parce que ça a été un facteur de propagation du bouddhisme extrêmement rapide et qui a donné toute sa coloration, mais je dirais même doctrinale, à ce qu'était le bouddhisme ensuite. Alors, qui sont ces gens? Alors, ces gens, ça peut être n'importe qui. Ce sont des personnes qui se sont converties au bouddhisme et qui ont décidé... Bonjour. Et qui ont décidé d'embrasser l'état religieux. Je vous avais dit la fois dernière donc que le Bouddha avait décidé de créer une communauté de moines, il y avait également une communauté de nonnes, qui étaient des personnes qui étaient en dehors de la société, qui ne marchaient pas dans le système des castes de l'Inde antique, et ces personnes donc qui étaient en dehors de la société étaient ce qu'on appelait, donc faisaient partie de la Sangha, de la communauté bouddhique, et étaient ce qu'on appelait des moines mendiants. C'était des personnes qui étaient astreintes à une discipline sévère, et ils devaient passer la matinée à mendier. Mendier, c'est-à-dire, à l'époque, ce n'était pas une activité jugée basse hein, dans la société, enfin, ce n'était pas jugé très haut non plus, mais ce n'était pas une activité, ce n'était pas rédhibitoire. Hein. Et donc, dans la matinée, ils devaient mendier, ils avaient très peu de possessions, ils avaient l'habit, la robe qu'ils portaient sur eux, ils avaient une sorte de sac en bandoulière, qui fait partie encore maintenant qu'on retrouve dans le vêtement des prêtres bouddhistes, mais qui est juste une sorte d'écharpe, mais on voit encore la bandoulière dans la plupart des ordres bouddhistes. Donc ils avaient ça, ils avaient donc leur habit, l'écharpe, enfin la sacoche, ils avaient un bol, qui était justement le bol dans lequel ils mendiaient, dans lequel ils mangeaient, et ils avaient une sorte de chapelet, de rosaire. C'était les seules possessions que pouvaient avoir ces gens-là. Ils n'avaient rien de plus. Donc, les aumônes qui leur étaient faites étaient uniquement des aumônes sous forme de nourriture, qui devaient leur permettre de vivre jusqu'au lendemain. Et donc, ils tendaient leur bol. Ils allaient de maison en maison. Alors, les gens généreux remplissaient le bol, et ceux qui étaient moins généreux ou plus pauvres remplissaient qu'une partie du bol, et dans ce cas, c'était la maison suivante. Et souvent, ils restaient devant la maison, ils risquaient des textes. Ils n'entraient pas dans la maison comme des démarcheurs, ils restaient devant la maison. Alors c'était une structure originale, l'après-midi, ces gens-là se retrouvaient entre eux et ils faisaient des exercices méditatifs où ils écoutaient l'un d'entre eux qui était plus expert en doctrine, qui enseignait les autres. Et donc c'était une petite communauté, je crois que le chiffre minimum pour former une sangha c'est 5 personnes. Donc c'était une petite communauté, parfois de très peu de gens, parfois très nombreuses, hein, parfois très nombreuses, c'est pas des milliers, mais ça peut être 100 personnes, 200 personnes. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que lorsque ces gens-là arrivaient dans un village, commençaient à se fixer dans un village, mettons une de ces personnes, au bout d'un certain temps, si son activité, entre guillemets, est bonne, il a converti d'autres personnes. Parmi ces personnes, il y en a qui décident de prendre l'état religieux comme lui. Donc il était tout seul au début quand il est arrivé dans le village, et maintenant ils sont deux, ils sont trois, ils sont quatre. Ces personnes qui ont été converties, ce sont eux-mêmes des gens qui, dans le temps, étaient des agriculteurs, des commerçants, et qui avaient une fonction dans le village, et du coup, ils n'ont plus de fonction. c'était le facteur local, c'était le chaudronnier local, c'était, enfin à l'époque il n'y avait pas de facteur, mais c'est pas grave. Et donc d'un coup, on n'a peut-être plus de chaudronnier, on n'a peut-être plus de je sais pas quoi, de berger, etc. Donc c'était des gens qu'on retirait, enfin qui par le système religieux étaient retirés de la vie active, en quelque sorte, ça faisait des bras en moins, parce qu'à l'époque, on est dans une époque de subsistance stricte, ça faisait des bras en moins pour l'agriculture, par exemple, et si les personnes qui sont là, le prêtre qui est là, a un succès total, on pourrait dire que le village quasiment dépérit, on pourrait dire que c'est une sorte de subsistance parasitaire. Donc, il n'y a pas d'autre solution, c'est-à-dire que dès le moment où ils deviennent trop nombreux, ils ont moins d'aumônes parce qu'il y a moins de gens qui sont là, et donc ils sont bien obligés d'aller ailleurs. Et donc, ces communautés, d'elles-mêmes, se vidaient, se remplissaient, se vidaient. Et les gens, ils partaient sur la route. Et donc, ils allaient au village d'après. Si la même chose se passait, ils allaient de village d'après. Et en fait, ce système, qui n'était pas voulu à l'origine, je suppose, a permis la propagation du bouddhisme dans toute l'Asie comme un feu de paille, quoi. Enfin, je dirais pas un feu de paille, mais vraiment comme une traînée de poudre. Ça a été extrêmement rapide. Dans la plupart des cas, quand on donne la date d'établissement du bouddhisme dans un pays, c'est pas la date où le bouddhisme est arrivé, c'est déjà la date où il est déjà fort et bien implanté. Quand je vous ai dit la fois dernière qu'on situe à peu près, parce qu'on ne sait pas, vers le début de notre ère, l'établissement du bouddhisme en Chine, ça veut dire qu'au début de notre ère, il y a déjà plein de communautés. Et donc, l'histoire chinoise ne peut plus l'ignorer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est un système original. Tant que ce système a fonctionné, le système des moines mendiants, le bouddhisme a été dans une phase d'expansion très forte. En plus, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces gens-là, ils devaient ou avoir du succès, ou périr. Mourir de faim. Parce que si la personne il arrive dans un village qu'il est rejeté, que tout le monde trouve que ce qu'il dit c'est absolument inintéressant et que de toute façon on n'en a rien à faire, eh bien personne ne lui donne rien. Alors ou il repart ailleurs ou il meurt de faim, c'est comme il veut. Mais vous voyez donc c'était un système où les gens étaient, on pourrait dire, pratiquement condamnés à réussir. Et donc ces personnes-là, poussées de village en village, vont se joindre aux marchands et vont partir vers les endroits les plus lointains. Ils vont quitter l'Inde. Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces personnes-là étaient très, se mêlaient complètement, c'était des gens souvent qui étaient issus du petit peuple, et qui se mêlaient complètement aux migrants de toutes sortes, qui étaient des guérisseurs, des colporteurs, des raconteurs d'histoires, des vagabonds, et donc cette espèce de fréquentation des migrants, des gens qui sont un petit peu en marge de la société et tout, fait que ces gens-là étaient dans le peuple à l'aise comme des poissons dans l'eau. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, le type qui a roulé sa bosse partout, qui a vu plusieurs, ce qui est, à l'époque est très rare, quelqu'un qui a vu plusieurs pays, etc., il arrive, il a immédiatement des choses à raconter. C'est un homme qui s'en est sorti, sans ça il ne serait pas arrivé jusque-là, il aurait été dévoré par les bêtes en cours de route, ou par des brigands, ou par ce qu'on voudra, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ces personnes-là arrivent, sont souvent à l'aise dans le petit peuple, et quand on remarque qu'il y a une présence bouddhiste, c'est déjà une présence forte en fait. Parce que c'est une sorte de, je crois on peut dire, d'essaimage, d'infiltration qui s'est faite naturellement. Alors les principales conséquences de ce mode de propagation totalement original et non voulu, c'était que finalement il y a eu un foisonnement de doctrine. Parce que ces personnes-là, je veux dire, n'étaient pas garants d'une orthodoxie quelle qu'elle soit, c'était des personnes qui souvent, à mon avis, devaient inventer autant qu'ils savaient, parce qu'ils arrivent dans un village, c'est conquérir l'attention des gens. Si on raconte que des choses qui ne sont pas autant couleurs, on aura un succès mitigé. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était vraiment des conteurs. Donc ces gens-là vont amener un bouddhisme finalement assez hétéroclite, assez haut en couleurs, et qui par la suite se scindera dans un certain nombre d'écoles différentes qu'on va voir aujourd'hui. L'autre conséquence, c'est que vu qu'il y a une arrivée qui s'est faite par le nord, et qui arrivait dans la région un petit peu au-dessus de Pékin aujourd'hui, l'autre qui arrivait par le sud, d'entrée de jeu, donc qui était par voie maritime, d'entrée de jeu, finalement, on a eu deux formes de bouddhisme importantes, celle du nord et celle du sud en Chine. Celle du nord étant davantage une forme de bouddhisme qu'on a appelée dévotionnelle, c'est-à-dire où les pratiques religieuses, etc., ont une importance forte, et celle du sud étant plus métaphysique. On verra au travers des sectes qu'on va étudier aujourd'hui comment dirais-je, la différence entre ces deux courants. Le bouddhisme donc arrive en Chine. Quelques éléments, le Bouddha donc lui vient d'une famille de Kshatriya qui étaient les guerriers en Inde. Il a pratiqué la cesse du type du yoga et auprès de différents maîtres. Il voulait se libérer du cycle des réincarnations, ce qu'on appelle la métempsychose. Il y a réussi à travers ce qu'on appelle l'éveil. Il a fondé le Sangha, c'est-à-dire la communauté bouddhique. Bon, c'est tout ça très rapide, hein, j'en conviens. Au niveau des éléments doctrinaux, cette notion de se libérer par la connaissance des mécanismes psychiques était une idée qui n'existait absolument pas en Chine. L'idée de l'individu n'était pas forte en Chine, donc de là s'intéresser aux mécanismes psychiques, c'était encore une autre chose. Le fait qu'il y ait une sorte de responsabilité de l'individu vis-à-vis de ses actes en Chine, c'était pas quelque chose qui était très développé. Il y a plus l'idée d'une responsabilité collective qu'individuelle. Et un autre point, c'est que quand même le bouddhisme, à l'origine, est, et encore maintenant, c'est une religion qui est empreinte d'un très grand pessimisme. La première vérité, tout n'est que souffrance, l'université de la souffrance, tout. Et ce pessimisme, alors, qui est vrai ou pas, c'est pas à moi d'en décider, mais quelque chose qui était étranger à la pensée chinoise. Il y a eu évidemment des penseurs tristes ou mélancoliques, en Chine aussi, mais les grands penseurs, des gens comme Confucius, au contraire, je veux dire, il avait vraiment une mentalité de Boy Scout, malgré tout ce qui est arrivé, il a continué à toujours vouloir progresser et aller de l'avant, malgré des difficultés énormes qui ont été les siennes, des errances auxquelles il a dû se livrer à un âge déjà avancé. Et en plus, quelqu'un comme Confucius ou même les gens du Tao n'ont pas idée qu'il y a à se libérer de quoi que ce soit qui soit individuel. L'idée est toujours collective, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a un mauvais gouvernement. Et donc comment faire pour avoir des princes éclairés, pour avoir un peuple qui soit éclairé, etc. Donc le bouddhisme est arrivé là-dessus, je dirais donc d'une manière... Oui ?
Est-ce qu'il y avait des pratiques religieuses avant l'arrivée du bouddhisme ?
Oui, tout à fait. Donc il y avait à l'époque, le confucianisme n'était pas encore ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une religion, même si ça est devenu un petit peu de nos jours. Mais il y avait quand même tout ce qui était lié d'une part au chamanisme, vraiment très ancien, et d'autre part tout ce qui était lié au courant du Tao. Mais c'était des pratiques... il y a des choses de différentes, parce que quand on dit religion, alors je ne sais pas si... Enfin, à mon avis, il n'y avait pas une religion établie avec une église, un pape, etc. Ça, il n'y avait pas. Mais les gens avaient des conceptions, je dirais, d'ordre religieux ou spirituel. Les gens du Tao se livraient, mais là c'était une quête qui était purement personnelle et qui était réservée à certains ermites, à différents exercices. Mais il y avait déjà toute une religion qui était assez proche de ce qu'on appellerait aujourd'hui la magie, de choses comme ça, oui. Même la mère de Confucius était pratiquement une sorte de sorcière au sens propre. Et donc il y avait des choses, mais il n'y avait pas un clergé. C'est le bouddhisme qui va amener un clergé complètement original. Le bouddhisme a produit un grand nombre de courants et d'écoles différents, et donc il se présente sous une manière fragmentée, encore aujourd'hui, plus même peut-être qu'à l'époque, parce que les écoles elles-mêmes se sont fragmentées, etc., de noms de différentes sectes. J'emploie le mot secte dans un sens qui n'est pas du tout péjoratif, hein, c'est des branches d'une religion. Parce qu'on peut dire qu'il y a la religion, il y a l'école, mais quand on va encore plus fin, on arrive quand même. De plus, il est passé par toutes sortes d'aires, comment dirais-je, de régions différentes, et s'est imprégné des courants doctrinaux qu'il y avait dans ces régions. D'une manière, je dirais, là aussi tout naturelle, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces moines mendiants qui ont fait le parcours, qui va de l'Inde jusqu'à la Chine, donc sur cette route immense, en fait, c'était des gens qui ne savaient pas où ils allaient, dans beaucoup de cas. Certains qui étaient avec des marchands, ils savaient, parce qu'avec les marchands, donc le marchand, lui, allait à un endroit précis vendre ses denrées, mais beaucoup, comment dirais-je, ont suivi la caravane, ils arrivaient dans un village, ils restaient dans ce village-là. Peut-être qu'il terminait sa vie, et peut-être que c'était quelqu'un que lui a formé, qui repartira après, quand il y en aura davantage. Donc dans ce système-là, si vous voulez, dans le village, il fallait bien qu'il fasse comprendre des gens. Si les gens croyaient, et donc ils ont croisé, même pour ces gens, c'est très impressionnant, ils ont croisé toutes sortes de religions, toutes sortes de peuples, toutes sortes de doctrines. Si ces gens croyaient, mettons qu'il y avait un concept, mettons comme Dieu, ou quelque chose comme ça qui n'existe pas du tout dans le bouddhisme, le gars, il ne peut pas simplement dire le balayer de la main, parce qu'il a devant lui des gens qui y croient. Et donc il peut te dire, non, mais ça ne me concerne pas, ça ne m'intéresse pas et tout. Donc il est obligé de faire le lien. Pour faire le lien, il va devoir intégrer cette chose dans sa réflexion. Peut-être leur dire, ok, il y a un Dieu qui existe, mais vis-à-vis du Bouddha, même les dieux sont soumis, comme l'a dit le Bouddha lui-même, à la loi du karma. Donc, au fur et à mesure, donc, le bouddhisme va se charger, on pourrait dire, d'apports étrangers qui viennent des différents peuples qu'il a traversés. Et l'école la plus importante, encore à l'heure actuelle, en Extrême-Orient, qui s'appelle l'amidisme, qu'on va voir dans peu de temps, est justement quelque chose qui s'est chargé, comme ça, au fur et à mesure, d'apports étrangers. Le bouddhisme s'est chargé de tous ces apports, et maintenant, ce qui est important de voir, c'est qu'il n'y a pas une église unitaire du bouddhisme, ni à l'époque, ni maintenant. Il y a une multitude de courants. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que maintenant que le bouddhisme commence d'arriver un petit peu en Occident, représenté par différents mouvements, si vous voulez, ces gens-là ont un peu ce que je trouve quand même une tendance qui est un tout petit peu fâcheuse, c'est-à-dire qu'ils font semblant que les autres courants n'existent pas. Et donc ils se présentent en disant, voilà, moi je représente le courant A, donc il y a courant B, C, D, il y en a beaucoup. Et donc il dit, voilà, le bouddhisme a commencé de telle manière, le Bouddha, Shakyamuni, tatata, etc. et tout, pour arriver jusqu'à moi aujourd'hui, tout naturellement. Et donc les personnes ici qui l'écoutent ont l'impression, chose qui serait impossible dans la vie, parce que le gars il fait 4 pas de plus, et puis il voit qu'il y a un autre temple d'une autre sorte, etc. Mais donc les gens ont l'impression, en quelque sorte, qui écoutent ces différentes personnes des différents courants, qui font comme si les autres n'existaient pas, que finalement chacun est dans une sorte d'orthodoxie. Qui n'est pas le... Alors peut-être que tout le monde est... Peut-être que c'est des formes d'orthodoxie, ça je ne sais pas, mais je veux dire, il y a très peu qui font ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire de faire un survol comparatif d'un certain nombre des grands mouvements qu'il y a eu dans le bouddhisme. Et effectivement, je crois que les adeptes du bouddhisme qu'il y a en Occident, s'ils se livraient à ce survol, auraient l'esprit plus ouvert et plus large. Alors, pour reprendre donc les différentes grandes divisions qu'il y a eu dans le bouddhisme, la principale qui est souvent la plus citée est celle où il y a eu la séparation entre ce qu'on a appelé l'école des anciens et le grand véhicule. La fois dernière, il y avait déjà quelqu'un qui l'avait évoqué. Alors, au début de notre ère, donc c'est vraiment l'époque où le bouddhisme commence à se propager en Chine, on voit qu'il y a une tradition spécifique qui prend comme nom Mahayana. Donc Mahayana, qui se traduit en français par grand véhicule, donc Maha, qui veut dire grand, c'est du sanskrit, hein, donc c'est une langue indo-européenne, c'est la même chose qui a donné par exemple des mots comme majeur, par exemple, en France. Enfin, en passant par le latin, c'est magnus, etc. D'accord ? Et yana, qui signifie le véhicule ou le char. C'est ce qui permet d'aller d'un endroit à un autre. Alors cette école du grand véhicule est une école qu'on pourrait dire réformiste et qui se veut une réaction contre l'école qui y avait avant, enfin qui était le bouddhisme à l'époque, qui ne donnait pas de nom, mais qui du coup a dû s'en chercher un, et qui s'est appelé en sanskrit Theravada,
Theravada. Alors qu'on traduit en général par l'école des anciens, c'est à peu près ça. Thera, c'est un moine de haut rang, un Thera. Donc c'était souvent effectivement quelqu'un qui n'était pas jeune, donc peut-être qui a donné le... Ça. Et Vada, c'est un discours. Donc vous voyez, c'est-à-dire que d'un côté, il y a le grand véhicule qui s'oppose à ce qu'on pourrait appeler la parole des anciens. Et donc avec l'idée que c'est les anciens qui ont mieux connu la tradition,
etc. Alors, les gens du Mahayana, du vent des cures, ont été moins sympathiques que je ne le suis, parce que eux, ils entraînent les tenants de l'ancienne école, ils les ont appelés, les gens du Hinayana. Alors, Yana, ça veut toujours dire véhicule. Mais Hina, c'est quand même assez péjoratif, c'est quelque chose qui est médiocre, qui est obsolète, qui est démodé. Enfin bon, c'est le truc qui marche pas très bien, qui a peine belle apparence, quoi. Ouais, voilà. Donc, c'est ce qu'on traduit en général, maintenant, plutôt par petit véhicule. Mais souvent, Hina, c'est quand même le sens de médiocre, en premier. Donc voilà, alors ces gens-là, quelle est l'opposition? Pourquoi il y a une telle opposition qui s'est faite le jour à l'intérieur du courant même du bouddhisme? L'école des anciens, donc pour commencer par elle, parce que c'est théoriquement la plus ancienne, donc est une école qui est rattachée directement au Bouddha, qui a compris un certain nombre de courants, dont maintenant il y en a une partie que l'on connaît uniquement de nom, mais on ne sait même pas ce que ces gens-là, parce qu'elle s'est développée dans certains pays, mais elle a beaucoup régressé dans d'autres, à commencer par l'Inde, qui n'est pratiquement plus bouddhiste aujourd'hui. Alors donc, pour elle, elle développe l'idéal de ce qu'on appelle en sanskrit l'ara, donc qui est un méritant, celui qui a épuisé les passions. Donc on est toujours dans ce discours du début du bouddhisme, où ce qui est important, c'est d'épuiser les passions qui faussent le regard que l'on a sur les choses. D'accord ? Or, ce regard, on dit toujours que c'est comme comme un lac, c'est-à-dire la surface est claire comme un miroir tout collé, il suffit qu'il y ait un petit peu de vent, qu'il fasse de légères vaguelettes, et c'est plus tout une surface claire. On ne peut plus voir dedans, on ne peut plus se refléter dedans. Et donc, ce système crée une élite de moines. C'est des partisans également de l'éveil gradualiste. Hein. C'est-à-dire qu'il faut plusieurs vies pour parvenir à l'éveil. Et donc, ce qui est important, c'est déjà de ne pas régresser, voire de progresser un peu. Mais il n'y a pas l'idée qu'on peut avoir l'éveil immédiatement dans cette vie. Sauf si c'est la dernière du cycle. Ça s'est diffusé donc en Inde, où ça n'existe plus beaucoup à l'heure actuelle. Ça s'est diffusé là où ça existe encore beaucoup, au Sri Lanka, donc dans l'île de Ceylan, en Birmanie, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge. On trouve des implantations, même encore maintenant, en Chine, qui sont arrivées par la route du Sud. Mais on en trouve peu, et ça n'a pas été des choses qui ont... Et c'est souvent des choses qui sont restées un petit peu en l'état. Donc je n'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui, parce que vis-à-vis de la pensée chinoise, je ne pense pas que ça ait eu un grand rôle. Le rôle quand même que ça a eu, c'est qu'on a quand même importé beaucoup à partir de l'île de Ceylan, par exemple, des moines et des nonnes, en grand nombre, qui ont permis d'amener, surtout au niveau, parce que dans le bouddhisme, les règles morales sont extrêmement importantes pour les religieux. Et donc, ces gens-là les connaissaient, les vivaient. Et donc, ça a permis d'amener des instructeurs en éthique, en morale, en grand nombre et immédiatement. Et ça, c'était relativement important. Si vous voulez, dans le bouddhisme, on estime que pour qu'un disciple se développe, en général, il doit avoir deux maîtres. Il y a ce qu'on appelle les maîtres des doctrines et les maîtres des hommes. Les maîtres des doctrines, c'est des gens qui connaissent bien l'enseignement bouddhiste. Et enfin, ce qu'on appelle les sutras, c'est-à-dire les textes du Bouddha, et les sastras, c'est-à-dire les commentaires qui ont été faits dessus. Et les maîtres des hommes, c'est les gens qui connaissent bien le vinaya, qui est les règles éthiques. Et en fait, ces trois enseignements, c'est-à-dire les sutras, c'est-à-dire les textes qui ont été pris en note, qui sont censés recenser ce que le Bouddha a dit, les commentaires qui ont été faits, les commentaires philosophiques et les règles morales forment ce qu'on appelle les trois corbeilles qui forment l'enseignement bouddhiste. Mais le bouddhisme comprend les trois à la fois. Donc les maîtres des hommes sont des gens sont des gens qui doivent savoir les sutras et les commentaires et les sastras. Les maîtres des hommes, eux, doivent connaître l'éthique, la moralité et son application dans l'homme. Et en général, c'est des femmes psychologues. Et dans le bouddhisme, on dit que, en général, on ne peut pas être l'un et l'autre à la fois. Sauf les bouddhas et les faiseurs, qui ne sont pas pas des gens de la même espèce. Donc c'est très rare de rencontrer un Bouddha. Et donc quelqu'un qui prétend se positionner à la fois en tant que connaisseur de la doctrine et au point de pouvoir donner des conseils, connaisseur de l'âme humaine, etc., du point de vue bouddhiste, normalement méfiance. Mais c'est peut-être un Bouddha, donc on ne sait pas. Hein. Mais quand même, dans beaucoup de cas, ce n'est pas le cas. Donc, ça c'était pour le petit véhicule. Alors, le grand véhicule est une école qui est réformiste, donc qui se veut une réforme de ce qu'il y avait avant, et qui cherche surtout des méthodes d'accès à l'éveil qui soient possibles pour tout le monde. C'est pour ça qu'ils ont pris le terme de grand véhicule. Le véhicule, c'est ce qui doit mener les personnes de la, qu'on pourrait dire, de la rive de l'illusion vers la rive de l'éveil. Et donc, le grand véhicule devrait être ce grand vaisseau qui permet de porter beaucoup de personnes. Et donc, eux, ils disent, les gens des écoles anciennes nous demandent de faire beaucoup d'ascèses, beaucoup de choses que beaucoup de personnes ne pourront pas faire, quoi qu'il en soit. Et donc, le Bouddha, lui, s'adresse à tous les hommes. Après, il y a une sorte de sélection qui s'est faite, mais c'est pas au début, ils ne décidaient pas que ce serait cette personne et pas une autre. Et donc, eux, ils pensent qu'il y a des moyens qui peuvent s'adresser à la multitude des personnes et donc les amener directement à l'éveil. À l'idéal que les autres ont de l'ara, le méritant dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est l'homme qui est en train d'épuiser les passions, etc., ils opposent un autre idéal qu'ils vont appeler le bodhisattva. Vous êtes tous, je pense, entre ces termes. Bodhi, l'éveil, sattva, être. Donc les êtres de l'éveil. Les êtres qui vivent. Comment ? On peut le comprendre comme tel, mais on ne peut pas le traduire comme tel. Quelle est cette personne ? Donc théoriquement, c'est une personne qui pourrait accéder à l'éveil et en ce sens épuiser les incarnations, mais donc qui décide de ne pas le faire parce qu'il reste des hommes, des êtres, des créatures à sauver.
Mais c'est très mystique comme idée, ça, non ? On considère que des êtres humains sont des bodhisattvas ?
Oui, oui. Non seulement le considère-t-on, mais dans le bouddhisme, on pense que ces différentes choses, par exemple les bodhisattvas, les bouddhas, sont des choses qui sont possédées par tout le monde, d'une manière plus ou moins virtuelle. Et donc que les personnes peuvent avoir effectivement des actions de bodhisattvas, c'est-à-dire de gens qui font accéder les autres à l'éveil.
Parce que c'est toujours représenté par des statues peu humaines, quoi.
Oui, oui. Ce sont des représentations. Oui. Ce sont des représentations. Ce sont des représentations. J'en parlais tout à l'heure un petit peu de. Mais ce sont des représentations, mais l'idéal justement du grand véhicule est que des hommes vivent ce qu'on appelle la carrière de Bodhisattva.
Mais ce sont des moines souvent, non ?
Des moines, des laïcs, ça peut être quelque forme d'existence que ce soit.
Des genres d'écriture qu'on envoie un petit peu.
Normalement, oui. Mais justement, le problème du bodhisattva, c'est que il y a une exception du point de vue bouddhique, mais pas du point de vue des hommes. Alors, c'est quelqu'un qui est animé par une grande compassion et qui recherche autant le salut des autres que le sien propre. Alors que justement, c'est l'une des critiques qu'ils font à l'autre école, c'est qu'effectivement, ces gens se sont enferrés dans la notion de salut individuel. Or, est-ce qu'il existe un salut individuel ? Est-ce que si je suis le seul à me sauver, que par ailleurs le monde va mal, est-ce que je me sentirais bien et sauvé pour autant ? C'est une question. Alors, le grand véhicule s'est répandu dans tous les pays qui ont été touchés par la culture chinoise, à commencer par la Chine évidemment, en Corée, au Japon, au Tibet, au Vietnam et en Mongolie. Et également en Inde, mais où il est assez peu présent aujourd'hui. Le grand véhicule a entraîné la constitution d'une littérature extrêmement importante, notamment de sutras, c'est-à-dire de récits attribués au Bouddha, et le grand véhicule a eu tendance à faire du sutra, non seulement comme on l'avait vu auparavant, c'est-à-dire juste des choses assez factuelles, comme vous regardez souvent les sutras très ancien, où on dit le Bouddha est arrivé dans telle ville, il a parlé à telle personne, et l'autre lui a répondu ça, il lui a dit que, etc. comme ça. Mais dans le grand véhicule, les sutras deviennent une sorte, on pourrait dire, d'art total. Un peu comme peut-être elle a été l'opéra, par exemple, au 19e siècle, où on mélange de la poésie, de l'action, de la musique et tout. Dans les sutras du grand véhicule à cette époque-là, je pense que pour les gens, ça devait être à peu près la même chose. C'est une sorte d'art total, où il y a des parties qui sont, en prose, qui sont dites, il y a des parties qui sont en vers. Donc là, on voit bien qu'on est dans le domaine de la création littéraire, c'est sûr que le Bouddha ne s'est pas exprimé en vers. Hein. Et il y a toutes sortes de choses qui se passent, qui sont extraordinaires, des gens qui arrivent de l'espace, les choses les plus extraordinaires, mais qui réfèrent souvent à des expériences spirituelles réelles, qui sont codées en fait là-dedans. Mais donc cette littérature a été extrêmement importante. Deux tendances essentielles se retrouvent dans le grand véhicule. On verra que toutes les écoles se rattachent plus ou moins à l'une et à l'autre. En fait, c'est deux courants. L'un qui est le courant de ce qu'on appelle la prajna. Et l'autre, dhyana. Alors, prajna, si on veut mettre un équivalent en français, on pourrait dire la sagesse. Mais c'est une sagesse très forte et très lucide. Et l'attention, c'est un mélange de sagesse et de vigilance. L'attention qui est une autre chose. Dhyana, l'une des meilleures traductions, c'est de dire le recueillement. Parfois on trouve, mais moi je n'aime pas trop ce terme, la méditation. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors la meilleure, pour Dhyana, la meilleure définition en français que j'ai trouvée dans un livre d'un spécialiste du bouddhisme, en fait de la pensée qui s'appelle Guy Bugeaud, et qui dit que c'est une concentration apaisée et introvertie. Et ça je crois, du point de vue de l'expérience bouddhique, c'est assez vrai. C'est-à-dire que il y a une très grande concentration vers l'intérieur qui se fait, qui épuise même le niveau du langage ou de choses comme ça. C'est pour ça que méditation ne me plaît pas trop, parce que méditation est quand même une pensée qui dit. Oui. Donc ça commence par l'apaisement. Ensuite de quoi il y a la concentration qui devient de plus en plus forte et qui est introvertie. C'est-à-dire qui est tournée vers le dedans. Alors, ces écoles réfèrent à deux penseurs. Pour celle de la prajna, c'est un Indien qui s'appelait Nagarjuna. On ne connaît pas ses dates exactes, mais on pense que c'est à peu près 150 de notre ère, pour avoir une idée, 2e siècle. Et pour l'autre, c'est un autre Indien qui s'appelait Vashubandhu. Je vous donne les grands noms, mais il y a eu d'autres penseurs dans ces écoles que ceux-là, mais qui ont peut-être moins qui lui ont situé à peu près vers le 4e siècle, plus ou moins. Alors, je vais dire deux mots de ces deux écoles. Le Bouddha avait, recommandé, pour sortir de l'erreur, l'attention au phénomène, l'attention à soi-même, la vigilance. Une attention sur l'instant très forte, dirigée sur les choses. Cette attention, cette vigilance, la personne qui s'y exerce finit par développer des qualités de rapidité de penser et de juger les choses et ce avec quoi il pense assez vite et très rapidement, beaucoup plus forte que simplement en pensant normalement, parce qu'il y a toutes sortes d'exercices qui sont faits justement pour entraîner la pensée et la réflexion. Alors, cette tendance, en fait, a eu une tendance à amener finalement un doute énorme sur chaque chose et à commencer par le langage. C'est pour ça que c'est une école qui a fourni beaucoup de grammairiens. C'est quelque chose ici qu'on comprend mal parce qu'on comprend pas comment un courant religieux peut donner des grammairiens, en quelque sorte. Mais l'exemple, quand on lit Nagarjuna, alors, c'était traduit en français, on trouve quand même plusieurs livres. Notamment La voie du milieu par excellence et L'Inde pense-t-elle de Guy Bugeaud. Et quand on lit Nagarjuna, souvent il parle d'une phrase simple. Alors je ne sais pas, n'importe quoi, mettons, le marcheur a marché 40 km. D'accord, c'est une phrase simple. Tout le monde comprend. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans? Il dit, qu'est-ce que c'est qu'un marcheur? On dit, le marcheur a marché. Est-ce que ça signifie que dans ce cas-là, le marcheur peut exister indépendamment du fait qu'il ait marché? Est-ce qu'il y a des marcheurs immobiles? Ce n'est pas du Raymond DeVos. Donc vous voyez, il y a toujours la pensée est poussée très loin. Et amenée, c'est vrai que cette idée de marcheur, en fait, la phrase voulait dire quelque chose dès le début, dès le premier mot. On a eu besoin de mettre beaucoup de mots parce qu'on avait quelque chose à exprimer. Le marcheur a marché. Est-ce que la marche peut être faite par quelqu'un qui n'est pas le marcheur, qui est un homme immobile, etc. etc. Bon, c'est le premier exemple qui vient à l'idée, c'est pas très parlant, mais dans le nagarjunisme, on trouve beaucoup de ce genre de choses. L'idée est quand même que si on exerce l'attention, on finit par arriver à un point qui là n'est plus, qu'on ne peut plus tellement mettre en doute, et qui du coup éclaire le reste, mais vraiment de manière extrêmement pointue. Mais ces personnes-là, en usant de cette dialectique qui est souvent très vertigineuse, font que souvent les personnes sont extrêmement perdues. Et eux, en quelque sorte, ils affirment peu de choses, mais c'est vraiment que c'est comme un acide. C'est-à-dire qu'ils rongent tout et font que beaucoup d'affirmations qui semblaient normales, au bout de peu de temps, elles semblent aussi extravagantes que si elles étaient absurdes. L'autre école, l'école du dhyana, c'est-à-dire du recueillement, là, ce sont des gens qui se sont exercés à cette concentration. Souvent, on les appelle les yogacarines, c'est-à-dire les pratiquants du yoga. Parce que c'est des gens qui pratiquaient beaucoup d'exercices, comme a fait le Bouddha lui-même, qui sont liés au souffle ou au yoga mental. Le yoga bouddhique n'est pas, même le Bouddha, le yoga indien n'est pas tellement un Bouddha physique, hein, c'est tout le Bouddha, le yoga occidental qui l'est. Et ces gens-là, donc, qui sont les adeptes du yoga, qui sont représentés par Vasubandhu, eux ont eu un parcours qui est très, très différent, parce que même s'ils ont intégré des éléments de l'école précédente, eux, ils partent en quelque sorte du fait qu'il y a deux vérités, deux réalités. Il y a une vérité qui nous permet de communiquer ensemble, qui est ce que nous disons, etc. Donc eux, ils disent, on se passe pas du tout sur ce niveau-là. C'est-à-dire que là-dedans, il y a du plus ou moins vrai, du plus ou moins faux qui sont mêlés. Mais ça permet aux hommes de communiquer. C'est-à-dire toute tendance, toute époque a eu des sortes de lieux communs entre les hommes qui étaient plus ou moins vrais. Mais pour une certaine époque, les hommes croient ça. L'idée qu'on a de la science aujourd'hui sera peut-être complètement battue en brèche par la science dans deux siècles, mais globalement aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a, ben, c'est ce qu'on croit qu'est le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce sera peut-être entièrement faux. Mais ça nous permet de vivre et de croire ensemble des mêmes choses. C'est ça qui est important. Et donc ces gens-là disent, ça c'est la vérité, on pourrait dire, séculière, vulgaire. Et à part ça, il y a une réalité qui est peut-être plus importante et qui est une vérité, en quelque sorte, qui est que je ne veux pas me mentir à moi-même. Donc je peux croire, si vous voulez, les croyances générales sur la société ou sur le monde qu'on a, ou sur l'homme qu'on a dans une certaine époque. Je peux croire, je ne sais pas, que la Terre est ronde, que la Terre est plate, ou ça dépend des époques, ou ce que vous voudrez, mais ce qui est important, c'est le fait que j'essaie d'aller plus loin dans la compréhension que j'ai du monde, et vis-à-vis de moi-même, je reste sincère, mais en poussant les choses très loin. Et donc, par exemple, ces gens-là, vis-à-vis d'une notion telle que, je ne sais pas, est-ce que le monde existe ? Je ne sais pas s'il faut répondre par oui ou par non, mais il dit vraiment on ne sait pas. Il dit je n'ai pas d'expérience du monde sans moi. Je n'ai jamais connu. Si je dis que quelque chose existe par lui-même, c'est que cette chose peut avoir une existence complètement indépendante de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Si cette chose existe uniquement parce que je suis là, elle n'existe pas, elle est relative à moi. Elle n'existe pas en tant que telle. Et donc il dit si je suis honnête, si je suis sincère avec moi, je n'ai jamais vu le monde sans moi. Donc, je ne sais pas si le monde existe, donc c'est que le fait de dire le monde existe fait partie de ces vérités vulgaires, séculières dont je parlais tout à l'heure. Par contre, ils disent, dans ce cas-là, je peux dire qu'il y a un truc qui existe, pour lequel il n'y a pas de mot, qui s'appelle le moi-monde, par exemple. Il y a au moins une chose que je sais qui existe. J'ai jamais eu de l'expérience du monde sans moi, de moi sans le monde. Donc, si je dis le moi existe, je m'aventure. Si je dis le monde existe, pareil. Par contre, si je suis sincère, si je ne veux pas me mentir, je peux dire le moi-monde existe. Parce que tout ce que je, comment dirais-je, tout ce que j'expérimente, c'est l'expérimentation du moi-monde, par exemple. Donc vous voyez, les deux pensées quand même très, peut-être pas très si différentes que ça, mais c'est des choses que je crois que la philosophie occidentale n'a jamais poussé dans de telles directions. Hein. Souvent, quand on parle du courant des Yogacarines, ici on parle d'une sorte de subjectivisme absolu. Alors, ça donne peut-être une idée de la chose, mais pour eux, le problème, c'est que le sujet est tellement absolu qu'il n'y a plus d'objet, quoi. Donc c'est plus que du subjectivisme. Alors donc, pour revenir, ces deux courants ont influencé tous les courants du grand véhicule dans le bouddhisme qui se réclament ou de l'un ou de l'autre, ou d'un habile mélange. Alors, maintenant, je voudrais voir, pendant le temps qu'il nous reste, les principales écoles constituées, parce que je vous ai parlé de courants philosophiques, en quelque sorte, et je vais commencer par l'âme. La plus importante, du moins en Asie, d'entre elles, qui s'appelle l'amidisme. Alors, c'est un courant religieux original, et d'autant plus original qu'il n'existait pas en Inde. Alors, donc là, on est vraiment dans le bouddhisme purement chinois. Alors, il n'existait pas en Inde, c'est-à-dire qu'il n'existait pas en tant qu'école séparée du reste. Donc, je vais revenir donc sur l'affaire, qu'est-ce que c'est que cette affaire amidiste et pourquoi ce nom. Alors, ça vient en fait du nom d'un Bouddha qui s'appelle, oui, Amitta. Alors, il y a deux versions, hein. Amitabha ou Amitayus. A, c'est privatif. Ça veut dire sans. Mita, c'est la notion de fin. Ba, c'est la vie, et ça, c'est la lumière. Donc, c'est le Bouddha de la lumière infinie ou de la vie infinie. Alors, qui est ce personnage, d'ailleurs, qui est peut-être le personnage qui est peut-être l'un des plus représentés dans l'iconographie d'Extrême-Orient, à la fois sous la forme statuaire et également sous la forme de peinture. Par exemple, pour avoir une idée, les statues extrêmement massives, comme par exemple au Japon à Kamakura, le grand Bouddha, alors c'est dommage, j'ai pas pu amener mes photos, le grand Bouddha de Kamakura est ce personnage. Alors, qui est-il? C'est un Bouddha que l'on trouve dans certains sutras, donc qui est évoqué par le Bouddha Shakyamuni, et qui, comment dirais-je, est doté de pouvoirs salvifiques, donc pour assurer le salut des hommes, extrêmement important dès lors que l'on place sa pensée en lui, et qui a une force infinie pour sauver les hommes. Il vit dans une terre qui est censée être à l'ouest, dans un pays à l'ouest, qui est baigné de lumière. Et là, d'ailleurs, on retrouve des vieux mythes de l'époque du Tao, où il y a également la déesse d'immortalité qui vit dans un endroit qui est à l'ouest. Alors, souvent, cette école est appelée l'école de la pensée au Bouddha ou l'école de la terre pure. Or, ces deux termes, la pensée au Bouddha, c'est que, en fait, pour les gens qui sont donc les adeptes de ce courant, on ne peut pas, comment dirais-je, se sauver, échapper à ce monde, à la souffrance, par soi-même. On ne peut que demander, prier le Bouddha Amitta de nous venir en aide. Et il le fera. Et il le fera même, en général, lorsque nous mourrons. Et donc, lorsque nous mourrons, si au moment de mourir, nous pouvons concentrer notre esprit sur le Bouddha Amitta, eh bien, nous renaîtrons dans sa terre pure, à l'ouest. Et nous vivrons avec lui. Donc là, on voit bien comment des mythes qui sont étrangers au bouddhisme, qui sont liés à ces pays que le bouddhisme a traversés au fil de la route de la soie, donc qui sont des mythes qui venaient sans doute à l'époque de l'Iran actuel, le zoroastrisme, le mazdéisme, des choses comme ça, même sans doute des morceaux de christianisme, ont influencé, donc sont venus tout naturellement dans cette doctrine. Dans l'amidisme, il y a vraiment l'idée que ce monde là, est un monde de souffrance. Ça va mal. Et ça va mal, et on n'y peut pas grand-chose. Et donc, mais à l'inverse, on peut placer son espoir dans le Bouddha Amita. Et donc, le but, c'est au moins... Alors, vraiment, les adeptes, eux, récitent la formule de consécration au Bouddha Amita, Namo Amitofu, donc que vous entendez pas mal en Chine, même comme salut, hein, pratiquement, enfin, vous en dit par des gens religieux, hein, j'entends. Et ils espèrent au moins pouvoir renaître dans sa terre pure. Là, en fait, on est dans des mythes qui sont étrangers, sans doute, au bouddhisme originel. Mais c'est la forme de bouddhisme qui s'est le plus répandue en Asie. Parce que, effectivement, je tiens, les gens constataient que ça allait mal, et ils pouvaient placer leur foi, enfin, là on est vraiment, je veux dire, c'est assez proche par certains aspects du christianisme. Donc, les personnes, si vous voulez, dans le bouddhisme traditionnel, en quelque sorte, on dit que pour parvenir à l'éveil, il y a quatre forces qu'il faut faire fonctionner. Alors, j'essaie de me souvenir lesquelles. Il y a la force du Bouddha, la force de la loi, c'est-à-dire de la doctrine, la force de la foi et la force des ascèses, de la pratique du bouddhisme. On voit bien que dans ces deux forces, il y a deux qu'on pourrait dire qui sont extérieures. Ces deux premières, la force du Bouddha et la force de la loi, ben ça ne dépend pas de moi. C'est le Bouddha qui a connu l'éveil qui est le sien et qui a fait la doctrine qui est la sienne. Vous voyez ce que je veux dire ? À l'inverse, la force de la foi, c'est la foi qu'on fait naître en soi, et la force de la pratique, c'est-à-dire les pratiques religieuses auxquelles je me livre, ça dépend bel et bien de moi. Pour les amidistes, c'est pas ça. Je veux dire, il n'y a pas quelque chose à faire jaillir de soi. Si on le fait jaillir, c'est mieux. Mais sans ça, si on peut juste même penser uniquement au Bouddha Amita et au moment grave de sa vie, ça ira. Et ça assure le salut. Donc là, c'est quand même des gens qui vont amener du salut. Et en même temps, qui vont amener également, peut-être c'est moins vu, mais une certaine forme de courant de critique vis-à-vis des puissants du monde. Parce que ça va mal, ça va très mal, il y a des guerres, surtout, ça dépend les époques, mais quand ça s'est vraiment développé, on est à peu près au 5e siècle, à peu près, donc c'est des périodes extrêmement troublées en Chine, donc la société est en désordre et tout, et bien c'est qu'il n'y a personne qui régit la société. C'est tellement désordre. Donc l'amidisme a été souvent également à la base de toutes sortes de jacqueries, de révoltes paysannes. Parce que, effectivement, le fait de porter un jugement trop négatif sur le monde dans lequel on vit, quelque part, c'est également porter un sur les gens qui sont censés le gérer. Et donc, pour ces personnes-là, donc le plus important, effectivement, de placer sa foi dans le Bouddha Amita. Mais c'était un mouvement extrêmement important. C'était également les premiers clergés qui ont abandonné les défenses habituelles dans le bouddhisme à cette époque-là qui étaient faites pour les moines, notamment le fait de se marier ou des choses comme ça. Parce que si au bout du compte, la seule chose c'est de passer sa vie et ses espoirs dans le Bouddha Amita, à quoi bon mener une vie de célibat plutôt que d'autres choses? Donc voici pour l'amidisme, qui est un mouvement qui est peu connu ici, sinon peut-être, je dirais, au niveau artistique, vu qu'il a quand même engendré énormément de représentations qui sont souvent, pas parfois très belles, mais enfin au moins très caractéristiques. C'est la principale école qu'il y a en Chine, même encore à l'heure actuelle, je dirais, par le nombre d'adhérents. On voit bien que là c'est la foi des simples. Ce n'est pas des écoles hautement métaphysiques. C'est également, donc quand je vous disais tout à l'heure le bouddhisme du Nord et le bouddhisme de la Chine, du Sud, là on est dans le bouddhisme du Nord, c'est le bouddhisme dévotionnel. Alors le deuxième courant est un courant qui s'appelle, du nom d'un texte sur lequel il s'appuie, qui s'appelle la guirlande de fleurs, Huayanzhong en chinois. Alors c'est une école tardive, mais très très représentative vraiment des courants du grand véhicule, qui a été fondée au 7e siècle, et cette école prône la suprématie d'un texte qui s'appelle le Sutra de la guirlande de fleurs, et qui se fonde sur son enseignement. Or, ce Sutra de la guirlande de fleurs est un pavé qui est relativement énorme. La taille des sutras est extrêmement variable, certains font quelques pages, d'autres de taille moyenne font 30-40 pages, d'autres un peu plus gros font 200 pages, je ne sais plus combien fait le Sutra de la guirlande de fleurs, mais c'est déjà un bon pavé. Y a notamment une partie intérieure qui est très connue, qui est la partie qui je crois que ça a été traduit en français, je pense qu'il s'appelle l'éditaire. Et c'est traduit chez Fayard, si je me souviens pas juste, traduit par un certain Patrick Carré. Et donc là, on est dans la philosophie du grand véhicule. On y retrouve, je veux dire, les principales choses importantes de cette philosophie. La première, bon, qui ne surprendra pas les personnes qui ont suivi ces conférences l'an dernier, la notion de production conditionnée. C'est-à-dire que toute chose est causée par autre chose, il n'y a pas de choses qui ont d'existence en soi, donc tout dépend de tout, mais donc ça revient à peu près au même, quoi. Et ça se traduit par une sorte de très grand relativisme, et les phénomènes ne peuvent nous être connus que par la manière dont ils apparaissent dans notre esprit. Nous ne connaîtrons pas les choses qui ne sont pas dans notre esprit. Un extrait, par exemple, peut-être qui sera plus simple. L'esprit, comme un peintre talentueux, trace toutes sortes de cinq ombres. Alors, les cinq ombres, c'est les constituantes de la personnalité, dans le bouddhisme. Je ne m'étends pas dessus, on l'a vu l'an dernier. Dans tous les mondes, il n'est pas une chose qui ne soit son œuvre, qui ne soit l'œuvre de l'esprit. Le Bouddha est en cela pareil à l'esprit, et pareil au Bouddha sont les êtres. Alors, dans cette tendance, cette école reprend également quelques éléments de la pensée de Vasubandhu qu'on a vu tout à l'heure, sur justement cet idéalisme bouddhiste, le courant du rien que conscience. Donc là, nous sommes dedans, en quelque sorte. Mais, en plus, avec des caractéristiques, surtout littéraires, qui sont propres au grand véhicule, à savoir cette espèce d'exagération, je veux dire, quand on lit les textes, c'est vraiment évident, c'est-à-dire que toute chose, on vous dit, il existe 10 choses comme cela, et puis pour chacune, vous allez avoir plusieurs pages, et tout est décrit, et plus c'est décrit, je veux dire, plus il y en a, et plus c'est merveilleux, et plus c'est extraordinaire. Quoi. On est à l'abri d'aucun étonnement quand on lit ce genre de texte. Hein. Donc ça, c'est l'une des écoles qui existent encore aujourd'hui, qui sont importantes, cette école de la guirlande de fleurs, hein, qui, à mon avis, est peu ou pas représentée ici. Bouddhisme du Sud, bouddhisme métaphysique. Alors, une troisième école, dans laquelle je range plusieurs sectes à la fois, ce que j'appellerais le tantrisme, c'est-à-dire le bouddhisme mêlé de notions de magie, d'invocation, etc. Alors, le principal courant s'appelle l'école des paroles véritables, Shen Yuanzhong, école chinoise, également connue sous le nom de l'école du mystère. Ou des mystères, c'est bon comment c'est traduit. Donc là, on est vraiment dans la dimension assez obscure du bouddhisme. Alors, tous ces gens qui font du tantrisme sont des personnes, ça peut être dans le bouddhisme un petit peu étonnant, mais pour qui les désirs sont une chose tout à fait importante. Et donc, il y a une manière de gérer, de cultiver les désirs, etc. Moi, je me rappelle quand je vivais à Kowloon, il y avait un temple de ce courant qui était juste à côté de là où j'habitais, et je me rappelle, par exemple, ils font les prêtres et les apprentis des trucs vraiment très très étranges pour les personnes, c'est-à-dire que les gens leur commandent des sortes d'objets de désir, même des désirs très matériels, Et ces gens-là le fabriquent, c'est une sorte de, avec un peu comme du carton pâte, c'est du papier huilé ou des choses comme ça, mais ça finit par faire des choses très ressemblantes. Et donc les gens qui veulent vraiment des choses, hein, des maisons, des voitures, des trucs, les autres leur font un truc, vraiment ça ressemble un peu à la maison de Barbie, hein, un truc comme ça et tout, mais c'est vraiment, bon, ça c'est joli, quoi, mais enfin, voilà, les bouillies, bon. Et à la fin, on met le feu à tout ça. Donc on leur fait la maison avec le réfrigérateur, le truc, le tout ça, etc. Les gens étaient vraiment pauvres, hein, là où je vivais. Donc ça passait tout à fait extraordinaire. Donc on leur faisait un truc comme ça, avec la Mercedes qui est garée devant. Et donc à la fin, on met le feu à tout ça. Alors, donc c'est également le feu des passions qui consume tout, etc. Mais donc ce genre de choses, c'est parti des rites, alors qu'il était pour des rites populaires un peu que ces gens-là faisaient. Alors pour ces personnes, le secret de l'illumination du Bouddha était quelque chose qui n'était pas transmissible. Donc ils disent, il y a les sutras, donc ça on va le retrouver après dans des sectes comme le Chan par exemple, mais donc ils disent, il y a les sutras, il y a différentes choses, etc. C'est effectivement ce que le Bouddha a enseigné, mais ce qui était son secret, le secret de son éveil, n'était pas quelque chose de transmissible. Mais il l'a enseigné notamment à l'un de ses disciples, un nommé Kashyapa. Il l'a enseigné sous la forme de formules. On appelle ça des dharani. Vous connaissez peut-être le mot également mantra, par exemple, qui est un peu plus court le mantra qu'un dharani. Le dharani, c'est un peu plus long. Et donc, ce qui est important, c'est de se livrer à ces formules incantatoires, même si on ne comprend rien. Il n'y a pas à comprendre, parce que ce qui est dit dedans, c'est peut-être pas ce qui est dit qui est important, c'est peut-être le son que ça fait. Et donc, il faut le réciter, par exemple, ou faire réciter par un prêtre qui s'y connaît, des dharani. C'est important. Ils ont également toutes sortes de, comment dirais-je, de postures, vous avez déjà vu, peut-être sur des statues ou les moines, toutes sortes de postures des mains, tout à fait spécifiques, etc. Chacune a une signification. Oui, exactement. C'est tout à fait ça. Et donc, ça, c'est l'équivalent de ce qu'étaient les dharani en mots. Là, ce sont des choses en gestuelle. Et il existe la même chose également pour l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a des, je sais pas comment dire, des postures mentales, mais qui ne sont pas ce que la posture révèle, en quelque sorte, mais il faut être dans la posture, indépendamment de ce qu'elle signifie pour autrui. Et pareil pour les mudras, donc les gestes des mains, ou du corps. Donc à la fois pour les paroles, pour l'esprit, donc c'est tous les actes que l'on fait. On fait des actes physiques, mentaux et vocaux. Donc pour chacun de ces actes, il y a des gestes, des choses comme ça qui correspondent. Ce qui est important, c'est de les faire, c'est pas de comprendre pourquoi on les fait. Donc vous voyez, là, on est tout à fait dans un bouddhisme, j'allais dire, opératoire. Alors, je voudrais juste évoquer rapidement, même si c'est à la périphérie du monde chinois, un autre courant tantrique, mais qui est peut-être mieux connu ici, qui est le lamaïsme, le bouddhisme tibétain, qui ressortit du même genre que que l'école des paroles véritables que j'ai évoquée tout à l'heure. Alors, c'est un bouddhisme tardif, mêlé de courants tantriques et de pratiques chamaniques. C'est tardif en ce sens où l'éclosion du bouddhisme au Tibet, c'est à peu près vers le 8e siècle. Alors ça peut paraître extrêmement paradoxal quand on voit une carte du monde ou de l'Asie, et où on voit que là où est né le Bouddha, où il a passé une partie de sa vie, c'est juste en dessous du Népal, qui tu vois une carte de l'Inde. Et donc le Tibet n'est pas loin. Mais donc le bouddhisme, pendant longtemps, a toujours contourné le Tibet. C'est pas qu'il n'y ait pas des missionnaires qui ne soient pas allés, hein, mais ils avaient un succès médiocre, et aucun succès. Donc, au 8e siècle, il y a un roi local qui épouse deux princesses. L'une est népalaise et l'autre est chinoise. Et ces deux femmes, à la fois, sont des bouddhistes ferventes. Et donc, elles vont s'occuper du roi. À partir de là, donc, de la conversion de ce roi, il commence à y avoir un système religieux qui est mis en place. Ensuite de quoi, il y a des missionnaires qui arrivent du Cachemire. Donc, vous voyez, là, on est vraiment comment dirais-je, à la confluence de beaucoup d'influences à la fois, hein. Et ces gens-là sont des spécialistes du bouddhisme magique, donc du tantrisme. Alors ça va donner une forme tout à fait spécifique du bouddhisme, que eux-mêmes d'ailleurs souvent ont appelé, pour le distinguer du Mahayana que j'avais évoqué tout à l'heure, ou du Hinayana, le grand et le petit véhicule, ils vont appeler ça le Vajrayana, c'est-à-dire qu'on traduit en général par véhicule adamantin. Vajra, ça veut dire le diamant ou la foudre, ou véhicule de la foudre. Ils vont récupérer les influences du nagarjunisme que j'avais évoqué tout à l'heure, et ils vont développer surtout un clergé très important qu'on appelle les lamas, d'où le nom de lamaïsme. Alors, ces gens-là, les lamas, sont les spécialistes des choses religieuses. C'est-à-dire que là, on est des pratiques en tout genre, etc. C'est-à-dire que pour le peuple, on leur dit, moi je craque les yeux peut-être un peu, mais il faut laisser faire les lamas. Par exemple, donc c'est pour ça que c'est une des seules formes de bouddhisme où vous avez des pratiques extrêmement, pour les gens du peuple, extrêmement rituelles, qui n'existeraient pas ailleurs. Par exemple, tourner des moulins de prière. Ce qu'on appelle les moulins de prière, il y en a certains qui sont de très très grandes dimensions, et en fait, les textes bouddhiques étaient écrits sur des rouleaux, des sutras donc, c'était des rouleaux de parchemin sur un axe, d'accord, ou sur deux axes en général, quand même, qui permet de l'ouvrir. Et donc, dans ces moulins dits de prière, vous avez, quand vous tournez, donc vous êtes à l'extérieur du moulin, hein, vous tournez le truc, et en fait, le sutra se dévide entièrement à l'intérieur. Et donc, c'est comparé à une lecture du texte. Donc là, on voit qu'on est dans le monde de l'efficace. Parce que la personne qui tourne le moulin ne lit pas le texte. Or, le texte, les autres textes bouddhiques vous diront, attendez, le texte, il vaut par son sens. C'est pas le fait de, si on compare ici comme si on avait une machine qui tourne les pages du livre à toute allure. Mais donc, c'est un acte de foi pour ces personnes-là. Et pour les gens du peuple, ça, plus des pèlerinages, plus différentes choses, ça va. Et les spécialistes de la chose religieuse sont les lamas, qui eux lisent les textes. Alors, chose étonnante, pour ça que j'en parle un peu à propos de la Chine, c'est qu'il y a une expansion du lamaïsme qui s'est passée au XIIIe siècle, en ce sens où quand les Mongols ont envahi la Chine, donc c'était le Kublai Khan, le grand Khan Kublai, ils se sont dit, vu que déjà eux se rendaient compte que pour gérer un pays comme la Chine, il fallait énormément se finiser, il fallait reprendre l'administration, il fallait tout ça, etc. Ils ont pensé que ce serait quand même mieux s'ils pouvaient avoir une religion à eux, et non pas reprendre l'une des vieilles sectes bouddhiques qui existaient à l'époque en Chine. Et donc là, ils ont fait des rencontres de différents moines pour un peu choisir, pour les mettre en compétition les uns avec les autres. Et finalement, quand ils sont tombés sur les tantristes du Tibet, ils ont été relativement emballés. Parce que les gars, ils faisaient des prodiges quand même. Alors je ne sais pas si on est dans le champ du bouddhisme exactement ou quoi que ce soit, mais donc là, les Mongols qui eux n'étaient pas bouddhistes, ça leur semblait bien comme histoire. Et donc, ils ont choisi ça. Et donc, à partir de là, ils ont développé en Mongolie, quand on voit une carte, c'est incroyable, hein, parce que vous avez le Tibet qui est en bas, et la Mongolie, et entre les deux, il y a l'énorme pavé qui s'appelle la Chine. Et donc, en Mongolie, même encore à l'heure actuelle, les gens sont lamaïstes. Et finalement, donc, sur différentes routes, même en Chine, enfin sur la périphérie, on trouve des couvents de moines tibétains jusqu'en Mongolie. Donc ça, c'était un développement de ce bouddhisme qui était très fort. Alors, je terminerai rapidement avec deux écoles importantes et pas toujours très connues ici, enfin, surtout pour une d'entre elles. C'est l'école dite du Lotus. C'est une école qui est née dans la Chine au VIe siècle. Souvent, on l'appelle l'école du Tiantai. Donc qui tire son nom d'une montagne qui est située dans la province du Zhejiang et où a résidé pendant longtemps l'un des fondateurs de cette école qui s'appelait Zhouyi, donc au VIe siècle. Alors là, on a une école qui est tout à fait originale en ce sens où je crois que c'était sans doute les premières personnes à porter un regard rétrospectif sur le bouddhisme. Et un regard critique et inventif. C'est-à-dire qu'ils ont été... C'est des gens qui sont issus d'une certaine mystique qui est propre... On les appelle les peuples du Lotus parce que c'est lié à un texte qui s'appelle le Sutra du Lotus, qui est un des textes du grand véhicule les plus connus en Asie, qui a également été traduit ici par un spécialiste qui s'appelle Jean-Noël Robert, qui est publié aux éditions Fayard, le Sutra du Lotus, et donc qui est peut-être le texte, dans sa traduction en chinois à l'époque, hein, qui a été l'un des plus célèbres du bouddhisme. Et on a toujours pensé que c'était un texte qui était extrêmement chargé de sens et qui amenait un éclairage philosophique très différent que les enseignements bouddhiques normaux, de base. Alors ces gens-là, par la connaissance qu'ils avaient de ce texte, ont porté un regard critique sur l'ensemble de l'appareil littéraire du bouddhisme. Et donc ils ont dit, voilà, on a plein de textes. Je ne connais pas le nombre exact de sutras qu'il y avait à l'heure actuelle, enfin à cette époque-là, dans les recensions qu'on a à l'heure actuelle, on arrive quand même plus de 5000. Hein. Et donc ils ont dit, et ces textes, il y a des endroits où ils disent des choses qui sont absolument contradictoires. Alors, ils n'ont pas mis en doute le fait que ces textes aient pu être écrits par des personnes diverses avec différentes opinions. Ils disent, comment on a pu en arriver à une histoire pareille? Ils pensent, ils se sont dit, le Bouddha est quelqu'un qui a été un pédagogue. Et donc, c'est quelqu'un qui, il n'a pas eu d'éveil. Après, il a dit, je peux parler de ce qu'était cette expérience spirituelle à d'autres êtres. Et les premiers gens qu'il a trouvés, vous rappelez, j'en ai parlé la fois dernière dans un parc à Bénarès, les cinq qui avaient été ses co-disciples, il s'est jeté sur eux et bien sûr il leur a dit tout ce qui est. Non, l'éveil qu'il a eu est quelque chose qui n'était pas traduisible sur le champ, qu'on ne pouvait pas dire comme ça aux personnes. Et donc, il fallait mettre une méthode graduelle d'enseignement. Les hommes ont des capacités qui sont différentes les uns des autres. Quelqu'un qui suit son enseignement pendant 5 ans, c'est pas la même chose que la personne qu'il va rencontrer de prime abord comme ça. Le Bouddha est également quelqu'un qui était un bon psychologue. Et donc, ces gens-là ont fait une classification des textes selon, en quelque sorte, une sorte de plan qu'aurait eu le Bouddha et auquel il aurait accordé ces textes. Et ce plan a pris toute la période d'enseignement du Bouddha, c'est-à-dire un peu moins de 50 ans. Donc c'est quelqu'un qui avait prévu une sorte de cursus. Et, comment dirais-je, alors leur idée est intéressante, même si à mon avis elle n'est pas forcément totalement vraie historiquement, parce qu'ils ont eu cette idée qui est pas mal, c'est-à-dire que pour eux ça se passe comme ça. Mettons, si j'avais une sorte d'échelle de graduation, ici on pourrait dire de la qualité spirituelle, de l'intensité spirituelle ou de du profond d'une doctrine. Pour eux, au début où le Bouddha donne son enseignement, il doit partir de très haut, d'assez haut, je dirais. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas arriver dans ce jeu avec la marchandise médiocre. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut frapper les esprits. Le but en premier, c'est d'amener des choses qui n'ont jamais été entendues. Et donc pour eux, ces choses qu'ils n'ont jamais entendues, eh bien, c'est par exemple le premier courant dont j'ai parlé tout à l'heure, mettons, qui était le courant de la guirlande de fleurs. Le livre de la guirlande de fleurs, bon, qui est un livre fait par rien, on est à ce niveau très haut. Et puis ensuite, crac, ça décroît très vite. Parce qu'on a donné aux gens, c'est-à-dire qu'on avait dû leur dire, vous voyez ce que je veux dire, le truc très important. Et ensuite de quoi, il faut se mettre au niveau des personnes, c'est-à-dire arriver à un niveau qui est non-bouddhiste. On a donné immédiatement le truc très haut, et immédiatement après, on passe au truc très bas. Et ensuite de quoi, il faut qu'il y ait une gradation, sur une pente beaucoup plus douce, pour arriver finalement plus haut. Et pour eux, ce niveau où on arrive ici, c'est justement le Sutra de Lotus, c'est la dernière période d'enseignement du Bouddha. Donc il va du Sutra de Lotus jusqu'à la mort du Bouddha, 8 ans après. Donc, pour eux, en fait, les choses se passent comme cela. C'est-à-dire que vous avez au début un enseignement à la guirlande de fleurs qui est donné, qui est très haut, qui est peut-être pas forcément donné, qui est juste pensé même par le Bouddha. Ensuite, boum, on tombe au niveau justement de doctrines qui sont à la limite du non-bouddhisme, les quatre vérités, les choses comme ça et tout. Et puis ensuite de quoi, par palier, on remonte. Alors là où mon dessin n'était pas prévu, c'est que effectivement chez eux c'est plus la notion de palier. On va faire comme ça. Donc ces personnes, d'une part, portent un regard, j'irais, critique et global sur les Écritures, essaient de les mettre dans une perspective, plutôt que de se réclamer juste d'un texte et de faire comme si les autres n'existaient pas. Et donc, ils mettent également au point des méthodes spirituelles d'accès à l'éveil. Ils sont dans une démarche d'obtention de l'éveil qui est extrêmement volontaire et active. L'une de ces méthodes, enfin il y en a plusieurs, mais l'une des plus connues, c'est ce qu'on appelle en bouddhisme l'arrêt et contemplation, ou arrêt et examen, ça dépend des traductions. C'est-à-dire que pour eux, il y a l'idée que, comme on dit, l'esprit est comme le singe qui saute de branche en branche, si vous voulez. En fait, il tient par le mouvement et par les, hop, il attrape une branche, mais déjà il est projeté vers une autre. Et donc pour eux, l'esprit c'est ça. C'est-à-dire que l'esprit, il a un truc, hop, il a autre chose, il y a immédiatement des pensées adventives qui viennent sans cesse. Et il dit, qu'est-ce qui se passe si on arrête? Et donc, commençons déjà par le faire physiquement. Je marche, j'arrête, il se passe quoi? Ça, c'est des choses qu'on retrouvera dans le Tai Chi Kong ou des choses comme ça. Hein. Et donc, il dit, je marche, j'arrête, je respire, j'arrête, je pense, j'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois quand j'arrête? L'autre moyen qui vient avec, c'est ce qu'on appelle Guan Xin, c'est-à-dire la contemplation du cœur. Le cœur, c'est-à-dire l'esprit, en fait. Ces gens-là vont s'inspirer à la fois du Nagarjunisme que j'avais évoqué auparavant, et également de la doctrine de Vashubandhu, que j'avais appelé le subjectivisme total, mais ils vont y apporter un bémol et vont en quelque sorte faire un peu imploser ou exploser le système. C'est-à-dire que là où les gens du rien que conscience de cette école de yogi disaient finalement, depuis que je suis né, je n'ai connu rien d'autre que le moi-monde. Donc dire autre chose, ça peut être vrai, ce que je disais au début, au niveau d'une sorte de vérité vulgaire, séculière, mais ce n'est pas une vérité absolue. Eux, ils vont dire une chose différente, ils vont dire c'est vrai, mais le problème c'est qu'il n'y a pas que mon moi-monde à moi. Il y a également son moi-monde à elle, à vous, etc., comme ça. Alors, ils disent, je ne peux pas ne pas intégrer cela. Et donc, ils vont créer un système qui est tout à fait extraordinaire, mais dans lequel je ne serai pas en détail, qui s'appelle le système de la une pensée 3000. Il y a ma une pensée, il y a mon moi-monde, mais il y en a 3000 autres dont je dois tenir compte en même temps. Et alors là, bon, le truc implose. Hein. Vous voyez qu'on est arrivé là quand même à des niveaux philosophiques tout à fait extraordinaires. Hein. Et je passe quand même assez rapidement là-dessus. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que donc cette école du Sud, l'école Tiantai, en fait, tout le monde a emprunté. Hein, on ne traite qu'aux riches, mais c'est également à eux que l'on emprunte. Alors il y a un courant, là je sors un peu du cadre purement chinois, qui est le courant de Nichiren, qui est quelque chose qui descend justement entre autres de cette école, hein, qui est une revisitation que l'on trouve au Japon, qui est un mouvement important à l'heure actuelle. Alors je terminerai par une dernière école qui est, je crois, à peu près connue ici, qui s'appelle l'école du Dhyana. Donc là on revient à ce que j'ai vu au début avec les écoles du Dharma et du Dhyana. Dhyana en chinois ça se prononce donc de la concentration, le recueillement. J'ai donné une formule qui était pas mal au début, je ne sais plus où je l'avais mis, concentration apaisée et introvertie. Eh bien, cette école de la concentration, du recueillement, donc s'appelle Dhyana. Dhyana a été transcrit en chinois par Channa, et le na final est tombé, c'est devenu l'école du Chan, et le Chan, c'est ce qui se prononce en japonais Zen. Et donc c'est connu ici davantage par les spectateurs japonais de ce courant, mais c'est également un courant donc chinois et important. Alors, le Chan ou le Zen, comme vous voulez, est un courant qui est original et qui est un courant là du bouddhisme du Nord, du bouddhisme dévotionnel, parce que c'est un courant où les exercices, notamment physiques et mentaux, ont une place qui est extrêmement importante. Alors, il est arrivé en Chine par un personnage, Bodhidharma, en fait, dont on sait assez peu de choses. Il aurait vécu au 6e siècle. Alors, sur Bodhidharma, on sait à la fois assez peu de choses, et beaucoup de choses, et trop de choses. Parce que, en fait, tout ça n'est absolument... On a énormément d'informations, vraies ou pas, c'est encore un autre débat sur lui, qui toutes ne se recoupent absolument pas. Et donc, voilà. Par exemple, la fois dernière où je l'avais un petit peu évoqué, il y avait une personne qui était là et qui m'a dit donc que c'était un Indien. Je lui ai dit que je vérifierais, parce que dans mon souvenir, c'était pas un Indien, c'était un Perse. Eh bien, nous avions tous les deux raison. Peut-être qu'aucun de nous n'a raison, je ne sais pas. Parce que, en fait, selon certaines traditions, il serait originaire du sud de l'Inde, peut-être même le fils d'un roi. Et pour d'autres, c'est un Perse. Et c'est vrai qu'on le représente, c'est dommage que je ne peux pas donner une photo, mais ils ont déjà vu des représentations comme un homme barbu, avec des yeux assez grands. Il y a beaucoup de petites statues qui existent, et on dessine soi-même les yeux parfois. Alors donc, pour être... alors ce qu'on sait, ce personnage, quelle que soit son origine, serait arrivé en Chine par la voie maritime. Encore que d'autres disent que c'est terrestre. Il aurait rencontré l'empereur Wu Ti, donc qui était l'empereur de la dynastie des Liang du Sud, à une époque où il y avait une partition du pays, mais il l'aurait rencontré donc, dans la ville actuelle de Nankin, ne l'aurait pas convaincu. Ensuite de quoi, il décide de faire une retraite. Et là, il part dans le nord de la Chine, au royaume des Wei. Et là, ni une ni deux, il passe 9 ans en recueillement face à un mur. Donc la personne reste 9 ans, donc s'exerçant justement à cette concentration intérieure face à un mur, dans un temple qui deviendra célèbre, qui s'appelle le Shaolin Su. Alors toutes les personnes qui se sont intéressées un petit peu aux arts martiaux chinois, notamment à la boxe, au kung fu, au sabre, c'est souvent de ce temple-là, le temple Shaolin, que sont parties ces choses-là. Shaolin, c'est-à-dire la jeune forêt ou bosquet, le jeune bosquet ou la jeune forêt. Alors, ce temple existe encore à l'heure actuelle. Bon, d'autres disent qu'il n'y aurait pas mis les pieds. Donc,
le temple de Shaolin, c'est ça, les moines de Shaolin.
Shaolin, oui. Shaolin. Oui, c'est ça, Shaolin en français.
Et les moines sont venus à part.
Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est un temple qui existe encore, qui fonctionne encore et qui a effectivement développé des techniques de combat particulières. Alors, toujours selon la même tradition, il serait mort relativement vieux, à 150 ans, après avoir transmis la doctrine à son disciple. Croyez que... Alors là, par contre, on sort de la... comment dirais-je... de la légende pour entrer dans l'histoire, parce que Raikel, lui, il a vraiment existé. On sait quelle était sa vie, c'est un homme qui est mort décapité, on a des renseignements précis sur lui. Et au fur et à mesure, vous allez voir les différents patriarches, les bons, les plus importants de cette école, qui vont s'appeler Huai quelque chose. Il va y avoir Huai Neu, notamment. Alors, c'est un bouddhisme, là, qui va être fortement teinté d'influence taoïste. En fait, beaucoup de... comme on l'a vu la fois dernière, beaucoup de parties du bouddhisme ont été teintées, dans un premier temps, par le taoïsme, faute d'avoir un vocabulaire pour traduire les concepts bouddhiques, quand le bouddhisme est arrivé en Chine. Donc, faute de vocabulaire, les bouddhistes qui parlaient mal le chinois ou qui ne le parlaient pas sont passés par des interprètes et tout, et qui ces gens-là, même s'ils n'étaient pas taoïstes en tant que tels, étaient imprégnés de cette culture. Et effectivement, dans le Chan, cette influence du taoïsme survit tout à fait. Alors, il s'est implanté également en Corée, au Vietnam, et ensuite il a gagné le Japon, dont il a peut-être davantage marqué la culture que la culture chinoise. Mais en Chine, c'est ça, c'est une école importante. Alors, il y a une immédiateté abrupte dans cette forme de bouddhisme, où là aussi, je veux dire, on demande aux gens un énorme effort spirituel et également physique, et on est beaucoup plus détaché des textes que par exemple dans une école comme le Tiantai que j'évoquais tout à l'heure. Donc voilà, je me suis livré à ce survol assez, peut-être un peu rapide, mais quand même que vous ayez une idée, parce qu'on parle du bouddhisme d'une manière unitaire, mais je dirais que à part les concepts de base hein, que l'on retrouve dans toutes les écoles, ensuite la chose s'est diffusée quand même dans les courants qui sont très, souvent très différents les uns des autres. C'est comme si on parlait ici globalement du, je sais pas, du monothéisme, mais quand même, on peut parler du monothéisme, mais je sais pas, par exemple, le judaïsme, c'est pas la même chose que le christianisme. Les gens qui appartiennent à l'un ou à l'autre de ces religions et qui y croient ne le ressentiront peut-être pas de la même manière sur toute chose. Et dans le bouddhisme, c'est pareil, je veux dire, il y a vraiment une fragmentation en école et qui était une richesse, mais parfois quand même vu de l'extérieur, une difficulté à saisir. Donc voilà le point que je voulais faire pour terminer cette assez longue série que nous avons faite sur les spécificités de la Chine ancienne, qui nous a permis de survoler, parfois de voir quand même dans le détail, à la fois la doctrine de Confucius, du Tao, et maintenant de certaines des écoles du bouddhisme. Je ne sais pas s'il y a des questions ou quoi que ce soit, toutes ces choses. Hein.
Oui. Compte tenu de cette différence, il y a eu des conflits, ce qu'on pourrait appeler des guerres de religion, comme on a connu en Occident.
Alors,
est-ce qu'il y a eu l'équivalent
Non, des guerres armées, non, mais des disputes entre écoles, oui. Des gars qui écrivaient un bouquin pour dire qu'ils étaient absolument pas d'accord.
Massacres.
Ah non, non.
L'équivalent de la Saint-Barthélemy, ça
ne
pas
Non. Non, il y a eu parfois effectivement des moines ou des corps de moines armés qui ont pu se livrer à des exactions, mais je veux dire, c'est pas des choses de cette ampleur-là. Hein. Et c'est pas quelque chose qui est. C'est plus des débordements de personnes qui sont pas d'accord sur la doctrine, qui se disputent, et puis à un moment donné, il y a un coup de sable qui part plus vite qu'un autre, quoi. Hein, et, mais il n'y a pas eu de guerre de religion. Hein. Et par exemple, souvent, même les Chinois eux-mêmes, je dirais finalement, entre des éléments du taoïsme, du bouddhisme, ça mélange un peu. Hein, donc les choses se sont plus imprégnées mutuellement, mais maintenant, les autres religions que le bouddhisme, en Chine, la religion Tao, des choses comme ça, ont créé un clergé qui ressemble un peu au clergé bouddhiste, etc. Donc tout ça est quand même assez... Ça s'est passé, je dirais, plutôt mieux, hein, plutôt bien. Oui.
C'est juste quelque chose du bouddhisme après le passage du taoïsme.
Alors, c'est pas... on pourrait étendre la question en disant qu'est-ce qui reste de la civilisation chinoise ancienne, en général, non seulement après le passage du maoïsme, mais après le passage de la pensée impériale. Donc là, ça nous remonte à 2 siècles avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que la plupart, dans la pensée chinoise, la plupart des grands penseurs, Confucius et autres, sont des gens de l'époque précédente, de l'époque féodale, et effectivement, il y a eu un tour de vis énorme qui a été donné, aussi fort que le maoïsme, à mon avis, hein, à ces époques-là, et... Le fait de passer ensuite au communisme, enfin au maoïsme, a été également quelque chose de fort. Donc maintenant en Chine, les temples recommencent, certains temples recommencent d'ouvrir, mais la plupart du personnel a été rendu à la vie civile pendant longtemps, ou envoyé dans les camps, ou des choses du même ordre, ou zigouillés, quoi. Donc, mais il y a quand même une résurrection actuellement du bouddhisme chinois. Mais je pense que dans beaucoup de cas, quand même, les traditions ont été un petit peu saccagées ou arrêtées. Mais le bouddhisme, c'est quelque chose qui reprend assez, assez facilement. Mais je ne sais pas du tout le... Mais maintenant, par exemple, en Chine, dans les temples, il y a des gens qui viennent, etc. Et tout, hein, donc c'est... Beaucoup de temples ont été repeints et tout, qui servaient vraiment de porcherie ou tout comme ça.
Le rapport avec le pouvoir, on a quand même eu des périodes où les religions bouddhistes ont fait alliance avec le pouvoir ou non.
Oui.
Par exemple, l'adoption d'une école, c'était souvent la décision d'un prince.
à mon, enfin je crois pas, à ces époques-là, c'est-à-dire quand ces grandes écoles sont nées, non, à mon avis. Oui. C'est sûr qu'il y a eu des, comment dirais-je, il y a eu des liens, parce qu'effectivement pour eux c'était important d'avoir des appuis locaux, voire impériaux. Mais, si, le cas qu'on peut voir par exemple, c'est le cas, j'ai dit tout à l'heure, vis-à-vis des Mongols, mais qui eux étaient une dynastie d'envahisseurs. Et donc, ils devaient trouver d'autres normes que les normes locales.
Les Mongols, excusez-moi, mais je ne connais pas bien l'histoire, mais je crois que les Mongols sont envahis le Japon aussi.
Non.
Non.
Non, non.
Non.
Ils ont essayé, quand même.
Ils ont essayé.
Ouais, ils ont
essayé. La campagne.
Comment ?
Leur campagne contre le Japon, ça a quand même...
Là, c'est complètement dans du cours de la conférence que je donne aujourd'hui. Bon, c'est un sujet qui m'a passionné, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, mais c'est tout à fait en dehors de... Parce que là, c'est l'histoire du Japon et...
Les Mongols sont restés longtemps.
En Chine ?
Oui.
Oui, longtemps. Je crois que la dynastie a duré à peu près, faut vérifier, environ 200 ans, quoi. L'Empire mongol a été le plus grand empire qui a existé sur Terre. C'est quelque chose qu'on voit mal. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'ils sont allés jusqu'en Russie, jusqu'à l'équivalent actuel de, je sais pas, peut-être la Tunisie ou l'Algérie, de l'autre côté. Donc toute cette partie de la Méditerranée, donc tout le monde arabe actuel. Oui, ils sont allés jusqu'en Hongrie, jusqu'en comme ça. Et quand même toute la Chine, je veux dire. Et puis ensuite, des tentatives infructueuses, parce que ça peut être le très bon marin, et sur l'Indonésie, sur le Japon, effectivement. Tentative infructueuse. Mais ils n'ont pas non plus... ils sont pas... ils ont moins mis le paquet pour ces endroits, de toute façon, qui après, quand même, serait quand même difficile à gérer, parce que le fait que c'était des îles, c'était quand même pas évident pour l'époque. Mais quand même, pour avoir une idée, la flotte qui a été mise en place pour l'invasion du Japon, c'était 40 000 bateaux qui ont été construits à partir de la Corée, ce qui fait que toutes les forêts ont été entièrement décimées. La moitié de l'armée qu'il y avait dessus, je ne sais plus combien c'était, mais c'est 300-400 000 hommes. Hein. Donc presque tout était fourni par la Corée, c'est que ce petit pays a été totalement ruiné pendant des générations et des générations. C'était plus important en nombre d'hommes, etc., que les forces américaines en Irak aujourd'hui, hein, pour une idée. Mais c'était pas... si vous voulez mettre le paquet, ça va être encore pire. Hein.
Ils n'ont rien laissé, les Mongols.
À quel point de vue ?
Point de vue civilisation.
C'est une civilisation qui est...
Par comparaison à l'Empire romain.
Quand même, c'est difficile à dire ce qu'ils ont laissé, parce qu'ils se sont, comme tous les gens qui ont envahi la Chine, ils se sont sinisés immédiatement, très rapidement. Donc finalement, ils ont développé de la culture chinoise. Ils ont amené quand même, pour l'époque, une prospérité qui a duré très longtemps, qui a duré plusieurs siècles. Ils ont amené un réseau de routes qui était lié au transport des armées, hein, parce qu'il fallait courir d'un bout à l'autre de l'Empire dès qu'il y avait le feu, mais ils ont amené quand même un réseau de routes énorme. Ils ont mis aussi, chose qui n'existait pas avant, des peuples en relation, comme on n'avait jamais vu quelqu'un comme Marco Polo était à la cour des Mongols. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en Chine, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à cette époque-là, dans le... comment dirais-je, en conseiller de l'empereur, on trouvait des gens qui étaient des Arabes, qui étaient des Européens, qui étaient des gens comme ça. Donc ça n'avait jamais existé en Chine. Donc il y a eu un afflux de pensées étrangères, un développement du commerce, et également, je crois que ça a été une époque, par tous les voyages qui ont été faits dans tous les sens, de développement des connaissances, on pourrait dire scientifiques, même si ce n'est pas le terme exact pour les savoirs de l'époque. Mais ils n'ont pas essayé de donner une sorte de touche à la Mongole, à cette civilisation. Et à mon avis, c'était une forme d'intelligence.
C'est quoi ?
C'était une forme d'intelligence. Parce que finalement, ils ont trouvé avec le modèle chinois un modèle de gestion d'un empire qui avait été établi bien avant eux, plus de 10 siècles avant eux. Et le fait de trouver un modèle de gestion d'un empire, c'est quelque chose qui est... c'est pas évident à inventer, hein, avec tous les rouages, etc. Et que ça marche en plus. Hein. Et donc, ça, ils l'ont pris clé en main.
Vous pouvez redire les dates d'après les Mongols ?
Donc, ça va, c'est ce qu'on appelle la dynastie des Yuan, Ça commence de mémoire, hein, il faudrait que je fasse un livre, mais à peu près au XIIIe siècle, au début du XIIIe siècle ou un petit peu avant. Et ça a été jusqu'au Ming, donc 15e siècle à peu près. Comment ?
Deux siècles ?
Ouais.
Je crois 900 ans.
Ah non, non. Il n'y a aucun empire, non, de 200 ans. De 200 ans. Il n'y a aucun empire, aucune dynastie en Chine qui a duré 900 ans. Oui.
Et comment ils ont été chassés
ben, vers la fin, à mon avis, leur problème, c'est qu'ils se sont trop sinisés. Je veux dire, ce serait resté vraiment à la pointe de fer. ce serait pas. Mais ils ont été trop sinisés, et je pense qu'à la fin, il y a eu des mouvements. Comment on peut dire, révolutionnaires en quelque sorte, et nationalistes, qui sont développés et dont le but était de remettre une dynastie chinoise en piste. Et donc c'était la dynastie des Ming, qui a été une dynastie qui au début était assez rayonnante, mais pas par la suite, et qui eux-mêmes ont été remplacés par les Mandchous, qui étaient eux aussi une peuplade du Nord, oui, et peut-être plus rare encore que les Mongols. Oui.
Excusez-moi de dire, j'ai
pas pu assister à toute conférence. Pourriez-vous me donner une petite indication sur le jainisme, comme j'ai pas une grande. Ah, ben, là c'est un petit peu difficile parce que c'est tout à fait. Donc là c'est une religion indienne qui est contemporaine de l'époque du Bouddha. Et bon, qui est tout à fait, qui est tout à fait autre chose que je connais personnellement beaucoup moins bien. Les jaïnes, ça veut dire les vainqueurs. Donc, ce sont des gens pour qui c'est important. Le but, c'est toujours un peu la même problématique que celle qui était celle du bouddhisme, c'est-à-dire d'échapper à la création des actes qui entraînent la transmigration. Et donc, eux, ils se sont dit. Le mieux, c'est d'éviter les actes, comment pourrait-on dire, impurs. C'est-à-dire, c'est pour ça que par exemple, enfin c'est anecdotique, mais c'est les gens qui essayent de ne pas causer la mort d'animaux, d'êtres humains encore moins. Gandhi, c'est un hindouiste, je pense. Mais donc pour les jaïnes, donc il ne faut pas causer, même par mégarde, même un insecte, même n'importe quoi, la mort d'animaux. Alors ici, on croit que c'est par sensibilité. Alors en fait, c'est pas ça, je veux dire, c'est pour ne pas se charger soi-même de mauvais actes. Hein. C'est pas que le gars, quand il voit une petite mouche, il dit « Oh, qu'elle est belle la mouche », etc. et tout ça. Oui, donc pour eux, il faut rester pur. Et ne pas commettre justement d'actes qui feraient qu'on alourdirait encore les choses, et donc qu'on serait forcé de revenir. Et ça vaudrait la peine de faire davantage de recherches quoi, sur le plus cher. Moi, ce que je vous en dis, c'est... Oui.
Moi, je m'intéresse à la méthode spirituelle dont vous avez parlé, la méthode arrêt contemplation.
Contemplation.
Comment ?
Contemplation.
Ah, c'est pas contemplation, c'est concentration.
Contemplation.
Contemplation. Arrêt contemplation, ça me paraît être... à la base de ce qu'on appelle les arts du Bouddha, c'est-à-dire que entre chaque action, il y a un temps d'arrêt et qui est comme une espèce d'étape de métamorphose. Alors, est-ce que c'est à quelle époque et quelle école qui a développé ça?
Le Tiantai.
Le Tiantai.
Oui, oui, au 6e siècle.
Vous êtes d'accord avec moi que ça doit être, ça peut faire partie de l'ésotérisme du Bouddha?
Oui. Enfin, je pense tout ce qu'on appelle, donc le Bouddha, ça c'est autre chose, c'est japonais, hein, c'est la voie du guerrier, le Bushido. Ces choses-là sont imprégnées en partie de l'esprit du bouddhisme et donc on trouve des points communs. Vous voyez ce que je veux dire? On trouve des points communs. Maintenant, le Bouddha lui-même est un homme qui venait de la caste des guerriers, mais qui a complètement renoncé aux armes. Et donc je pense que le bouddhisme est en train d'une grande non-violence. Même s'il reconnaît que le...
Je parle pas de voie de guerrier, je parle de Ikebana, calligraphie...
Alors ça, ce sont des voies tout court, mais le Bouddha, c'est le... Bouddha, c'est vraiment la voie des guerriers. Vous évoquiez le... Je sais pas quoi, tout à l'heure, mais donc ça, c'est tout à fait autre chose. Je pense que, si vous voulez, je crois que toutes ces pensées sont empreintes de l'esprit du bouddhisme, mais parfois, je veux dire, c'est d'une manière qui est quand même plus lointaine. Mais c'est sûr qu'ils ont pu trouver dans le bouddhisme aussi des techniques. Mais je crois qu'à mon avis, ce genre de différentes voies, que ce soit la voie des armes, la voie du thé, la voie de... etc. et tout, méritent, hein, dès lors qu'on s'y intéresse, d'être poussées en elles-mêmes. Et non pas par comparaison avec d'autres choses.
Non, c'est pas une question de comparaison, oui. C'est une question de sources profondes.
Oui.
Mon avis, hein. Parce que la manière, par exemple, dont le tir à l'arc s'est transformé, c'est évidemment plus un art guerrier. Donc c'est une méditation qui suit une méthode, une méthode spirituelle.
Oui.
Cette méthode, elle vient de... Pour moi, je ne savais pas, elle a l'air de venir de Sendai.
Je ne sais pas. Enfin, moi, à mon avis, c'est extrapolé très loin. Je pense qu'effectivement, beaucoup de manières de se battre avec différentes armes ont pris naissance dans certains monastères, qui étaient également souvent des foyers un peu d'insurrection, etc., où il fallait bien compenser le manque de force armée par des méthodes efficaces. Je dirais que au niveau du bouddhisme purement philosophique, je ne sais pas trop ce qu'on peut en dire, quoi. Donc bon, moi je n'ai pas tellement de réponse là-dessus. Mais je crois que c'est un peu le problème, c'est que en fait, la vue qu'a l'Occident aujourd'hui de toutes ces choses, et ça je me rends compte au fil des différentes conférences que je donne et des gens que je rencontre, c'est que souvent quand même, il y a un mélange des sources, un mélange des genres, un mélange des cultures, qui c'est un peu flou, quoi, c'est pas très gérable. Et donc effectivement, moi je pense que des gens qui s'intéressent, je sais pas, par exemple, à la voie du thé ou à la calligraphie, eh bien qu'ils étudient la calligraphie. Bon, ils n'ont peut-être pas attendu mon conseil pour s'y mettre, mais que ensuite ils verront si ça aboutit à quelque chose qui est d'ordre spirituel. Mais quand on voit quand même, on a dit ce que ça ressemble, c'est stupéfiant. Je vous remercie en tous les cas, hein, pour ceux qui ont assisté à de nombreuses ou à une seule même conférence comme ça. Le texte est disponible ici et il m'en reste un stand de la fois dernière.